משה אומר אני רוצה לרקוד.
לברד, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun.
Bonsoir à tous, bienvenue chez vous, bienvenue chez nous. Donc nous nous invitons comme chaque semaine chez vous, à vos côtés, et on vous en remercie de plus en plus nombreux d'abord à écouter cette émission La Vérade, l'émission du consistoire israélite de Marseille. Cette émission qui est donc diffusée tous les mercredis à 17h30 et 19h30 et que vous pouvez retrouver sur le podcast. Pour l'instant, elle n'est qu'en audio puisque vous savez que la radio a déménagé, elle s'est agrandie, elle se trouve au deuxième étage du centre de Montfleg et le visuel n'est pas encore disponible. Donc voilà, on embrasse quand même tous nos amis de Facebook et nos habitués. Aujourd'hui, j'ai un double invité. J'ai un double invité, en fait, avec la même personne. Cet invité, je vais vous le présenter. Il s'appelle Monsieur Eli Berebi, quand il est directeur du consistoire israélite de Marseille. Eli, bonjour.
Bonjour à tous.
Et mon ami d'enfance, il s'appelle Lulu. Lulu, comment vas-tu?
Bonjour Marc.
Voilà, donc vous avez bien compris que aujourd'hui on va avoir un échange, un débat, une discussion, un dialogue, comme on l'a toujours dit dans notre émission, pas de tabou, pas de baratin. On va savoir peut-être les coulisses du consistoire grâce à Eli. Puis on va parler aussi un peu de son programme, de son évolution, de toute la genèse de Monsieur Berebi. Mais avant de commencer, Lulu, si tu me permets, j'aimerais revenir sur deux événements importants qui ont lieu depuis la semaine dernière, depuis mercredi, où on était à l'antenne. Le premier, évidemment, l'événement dramatique, les deux attentats suivis en Israël, vendredi soir de Shabbat, dans une synagogue, 80 ans jour pour jour après donc la rafle et d'après la libération des camps. Et le lendemain, ce qu'on appelle un enfant de 13 ans, qui est peut-être dû à son éducation, mais ça, je n'ai pas envie d'en parler maintenant parce que j'ai envie de parler calmement aujourd'hui, d'être détendu.
Alors, ne me fais pas parler de ça, parce que j'en vais pas être calme. Là-dessus.
Toi, tu es mon invité, tu peux t'énerver. Donc, voilà, donc on vit ça enfin, depuis vendredi. Moi, j'ai ça dans mon cœur. Et puis, je pense qu'il y a un moment ou l'autre, il va falloir que des gens interviennent. Je ne parle pas de violence, je parle interviennent au niveau international, au niveau national et au niveau même de la municipalité. Pour en suivre l'évolution de la semaine, on a cité aussi dimanche. Et pour une fois, je ne vais pas poser un coup de gueule, parce qu'habituellement, Lulu, après chaque rafle de réunion sur le parvis de l'opéra, je poussais un coup de gueule parce qu'on n'était pas nombreux. Je crois que là, on peut quand même remercier la communauté dans son ensemble qui était présente.
Oui, pour la participation. Et après, je donnerai mon avis pour le reste puisque tu as été un des bénéficiaires. J'ai échangé à plusieurs reprises. Ce que j'ai regretté dans cette opération, c'est d'avoir mis de côté véritablement l'incidence de cette rafle sur la communauté. En gros, ces 80 ans, quand on nous les a proposés sur le territoire marseillais, c'est la destruction des quartiers de Saint-Jean. C'est vrai. D'accord, mais ceux qui ont été le plus touchés par ces rafles là, c'est la communauté juive. Et ça me permet aujourd'hui encore une fois de rendre hommage à ceux qui se sont battus, parce que peut-être toi tu le sais ou tu ne le sais pas, mais cette commémoration sur le parvis de l'opéra qui n'est pas toujours aussi suivie ou fréquentée chaque année quand on s'y rend, ça a été avec pugnacité la détermination d'anciens enfants qui habitaient ce quartier, qui ont vécu dans leur chair cet événement et cet épisode-là. En l'occurrence, quelqu'un de connu, Victor Algazi et sa famille, qui habitaient dans ces quartiers-là, de la rue Saint-Saëns et de la rue Molière et aux alentours. Et moi, je l'avais vécu dans les années 90, quand il a affronté la ville de Marseille, qui, comme toutes les cérémonies de déportés, de souvenirs, etc., était marqué sur l'espace qui était délimité, ce qu'on appelait en bas le monument des déportés près de l'hôtel Dieu, l'ancien hôtel Dieu, l'hôtel intercontinental. Bon, bref. Et Victor, et Serge Posamentier, et d'autres encore, et Henri Israël, et Ida Palombo, qui habitait aussi là-bas dedans, tous ces gens-là se sont véritablement battus pour imposer une cérémonie sur le parvis de l'opéra.
C'est en 92, si j'ai bien compris.
Oui, c'est possible. Voilà, c'est à peu près une trentaine d'années en arrière. Et c'est comme ça qu'il y a eu un consensus de dire, on fait une cérémonie, on va dire, protocolaire, officielle, comme vous voulez, qui se poursuit avec ce rassemblement à l'opéra où tout le monde prend la parole. Et d'ailleurs, on a eu des... pour ces 80 ans, on a eu des interventions magnifiques. Moi, j'ai trouvé l'intervention du maire de Marseille vraiment pleine d'humanité et vraiment
très surprenante. Très belle. Très surprenante belle. Et magnifique.
Le ministre de l'Intérieur aussi, je veux dire, c'est l'expression du gouvernement là-dessus. Après, on verra parce que pour le deuxième aspect. Mais tu auras bien remarqué, comme moi, qu'aucun des politiques ne s'est exprimé sur le parvis de l'opéra. Comme, c'est-à-dire, se sont exprimés là-dessus que les communautaires, notre ami Barbout pour les enfants de déportés, comment elle s'appelle, Denis Toros Martyr et d'autres. C'est-à-dire, on a laissé ça toujours, avec bien sûr autant de fréquence, avec la présence de tout le monde, hein, on dit ce qu'on peut dire, mais c'est la communauté. Faites votre salle, le président du Fonds social, le président du Consistoire, le président du CRIF, etc. Ça, c'est pour vous. Là, c'est un malade, alors qu'on aurait dû avoir une symbiose beaucoup plus marquée là-dessus.
Voilà. Je ne veux pas te contredire, mais moi, je sais que l'an passé, Michel était absent, j'avais dû prendre la parole.
Le maire est parti là, il a parlé.
Et j'avais parlé avec M. Benoît Payan en lui demandant pourquoi, justement, les personnalités ne parlaient pas sur le parvis. Et il m'a dit, c'est à vous à parler, c'est votre place.
C'est une façon polie de la synthèse que je viens t'expliquer.
D'accord.
La ville de Marseille, enfin, le monde politique n'a pas intégré, pour ne pas dire un autre mot, cette dichotomie, au contraire, il en a fait une dichotomie
il a pas fait
et non pas faire une symbiose pour faire un seul et même événement. Ils ont toujours marqué. Ceci étant.
Je sais que là, tu es en révolte avec surtout la Provence de lundi dernier.
Ça, c'est encore autre chose.
Carrément,
oui.
On était absent complètement.
Ah,
quand
oui,
Géon, c'est bien sûr nos anciens qui étaient absents complètement des écrits de ces journalistes qui, je pense, avaient une amnésie totale sur la.
Et ça a recommencé le dimanche quand il y a eu aussi la suite du jour de l'Assemblée. C'est toujours pareil. On nous a, Mérilla, bassiné avec les quartiers de Saint-Jean, du Panier, Saint-Laurent et tout ce qu'on voulait. Qui n'était rien que d'autre qu'un repère de brigands hein, et de fripouilles, hein, il faut le savoir à l'époque, c'était ça. Hein.
On
appelle un chat un chat. Ceci étant, on est très satisfait, c'est vrai, que cet événement a pu marquer la conscience et la mémoire des jeunes et des moins jeunes. Pour se rappeler qu'est-ce qui s'était passé.
Moi, j'ai trouvé quand même cette cérémonie assez intéressante.
Fastueuse, magnifique.
Pourquoi D'abord, il y a M. Benoît Payan. J'ai apprécié le fait qu'il ait parlé quand même de l'acte antisémite oui. La veille de Jérusalem.
Absolument.
Je veux dire, c'est assez courageux quand même.
Oui.
Ça, c'est courageux. Oui. M. Darmanin l'a repris aussi, le ministre de l'Intérieur. Nos responsables communautaires, bien sûr, que c'était obligatoire d'en parler. Mais j'étais quand même très, très touché par cette initiative. Et puis, la semaine avait commencé. Avec le conseil départemental par l'intermédiaire de Madame Martine Vassal, qui nous avait très très bien reçu aussi, et qui a mis quand même un bel accent sur la rafle.
Exactement, je trouve que ce rassemblement du 23 était vraiment dans la bonne portion ou proportion par rapport aux. La parole a été donnée à toutes les personnes concernées, tous les groupes concernés.
Par la jeunesse aussi, la jeunesse, les enfants des écoles qui ont chanté.
Par la jeunesse, tu sais, moi j'ai trouvé cette image qu'on a prise entre nous dans nos groupes WhatsApp du Consistoire. Cette petite musulmane avec son tchador, enfin avec son foulard, qui est venue déposer cette gerbe là au pied de pour marquer quoi. Là, c'était pour marquer les juifs qui ont été véritablement déportés. J'ai trouvé que c'était un beau symbole.
Il y a eu des moments forts. Alors donc, comme j'ai dit, je ne vais pas pousser un vrai coup de gueule, j'en pousse un tout petit, Lulu, si tu me permets. J'ai été une fois de plus, et je vous jure que je n'ai absolument rien contre eux, mais j'ai été un petit peu peiné, on va dire, pour ne pas dire déçu, que quand les élus prenaient la parole, ils disaient « Monsieur le grand rabbin », j'aurais aimé qu'ils disent « Messieurs les rabbinim ». Je veux dire, Lulu, pourquoi ils ne sont jamais là?
Moi, c'est quelque chose.
Excusez-moi,
puisque
c'est une émission où on parle librement.
Bien entendu.
Je les aime tous, les rabbins, il n'y a pas de problème. Alors, ils viennent tous les jours me voir au cabinet, comme toi, ou comme plein de gens, nous vendent des billets, parfois 300-400 euros pour leur collège, leur yeshiva. On fait le geste, on sort on prend notre temps de travail pour leur répondre, pour faire un minyan. Pourquoi vous ne voulez pas nous donner la main le jour des cérémonies où la communauté, donc votre communauté, notre communauté, est appelée à représenter l'ensemble de la communauté, donc les rabbins, les non-rabbins, les religieux, les moins religieux. Il y a un manque énorme à ce niveau-là et j'en ai de la peine.
Mais
voilà,
tu peux l'ajouter à cet événement-là, pas que, parce que rappelle-toi, enfin tu le sais puisque tu es un des acteurs avec nous là-dedans d'une façon importante. Quand on célèbre Yom Ha'atzmaout, quand on célèbre Yom Yerushalayim, quand on célèbre tout. C'est-à-dire, comme tu viens de dire, la vie communautaire en dehors du Limoud, les rabbins de communauté, je parle moi en tous les cas des rabbins de communauté, sans sortir de nom, c'est-à-dire
ceux qui ont
en charge. Non, on a des rabbinim qui sont dans le Limoud, qui sont dans des kolelim, qui sont dans des batemidrash, etc. c'est leur problématique, c'est leur philosophie. Mais ceux qui sont, qui portent une communauté, qui sont les porte-drapeaux de cela, ils ne sont pas exemplaires là-dessus. Et ça, c'est véritablement un travail qu'il faut revoir. Et ça, bien sûr, c'est le grand rabbinat de Marseille qui doit essayer, et le Bédin de Marseille,
de fédérer.
De faire un travail de sensibilisation. C'est une obligation. Je sais que le grand rabbin, c'est peut-être pas sa tasse de thé, tous ces trucs, tous ces événements-là. Il n'en demeure pas moins qu'il se fait violence et qu'il y vient et qu'il y participe et qu'il nous représente d'une façon très, très digne là-dessus.
Moi,
donc ça, c'est tout. C'est pas du politique. Yom Ha'atzmaut, parce que c'est Israël, pas c'est Israël, tout ça. C'est tout des clivages qu'il faut aujourd'hui. J'espère qu'on arrivera à les gommer avec le temps. Et il y a une responsabilité, c'est celle des chefs, des présidents de communauté. Moi, je crois qu'un président d'une synagogue, il peut intimer l'obligation à son rabbin de l'accompagner quand il se rassemble là-dessus.
Voilà. Moi, tu sais, lui, quand je fais des rêves comme ça, je me rappelle un petit peu quand on était dans le monde jeunesse, on était ensemble au déj quand on était tout jeune. Il y avait des cars entiers qui partaient de différents quartiers pour aller à l'OPEJ, pour Toubjivat, machin. Et moi, j'espérais qu'une journée comme celle-ci, on voit des cars partir de Sainte-Marguerite, de La Rose, du centre-ville, du 9e, du 10e, de partout, avec le président de la communauté, avec les rabbinimes de la communauté. Une journée, quelques heures. C'était, en plus, ça finissait tôt, on avait le temps de
rentrer. C'était un de mes souhaits pour conclure l'émission. Hein.
Je suis désolé.
Sans être passéiste, qu'on espère avoir dans cette communauté une dynamique beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus solidaire.
Si Dieu veut.
Il y a tellement d'événements qu'on a vécu dans ce sens.
Alors, je vais revenir sur Lulu. Lulu, ouais. Alors, parle-nous un petit peu de toi. Bon, je sais que tu es né à Tunis, enfin en Tunisie en tout cas. En Tunisie.
Moi, je ne suis pas de la capitale, comme dirait l'autre. Je suis d'un port de pêche. Je viens de Sfax.
Sfax. Il y avait beaucoup de Taïeb à Sfax.
Il y avait des bérébis. Alors j'ai découvert ça, on a sur un groupe Facebook un jeune garçon, parce que c'est vrai, il a une trentaine d'années, qui est un ethnologue et un anthropologue, dont la famille est tunisienne, sfaxienne, et qui a créé, il fait un travail fabuleux pour reconstituer la généalogie de toutes ces familles là de Sfax, d'accord, et des environs, etc. Mais c'est dédié à cette ville-là. J'ai découvert combien cette ville-là, parce que après je te dirai des petits souvenirs marqués, mais je croyais pas qu'on était aussi nombreux dans ce village. Alors, bon, bref, ceci étant, moi, alors, je vais te raconter un truc que je t'ai réservé parce que, pour que vous le sachiez, Marc, quand il était jeune, habitait à la rue Dragon, pas loin de la grande synagogue, et avec sa famille, je ne vais pas dévoiler beaucoup de choses, mais j'avais une attention ou une estime particulière avec sa regrettée maman. Quand j'ai commencé à travailler au consistoire, elle venait d'une façon régulière pour venir se préoccuper de payer les places de son époux et de ses enfants à la grande synagogue. Et puis c'était toujours l'occasion avec cette dame-là d'échanger pas mal de jolies choses avec elle.
C'est gentil, merci beaucoup pour elle, c'est adorable.
Donc moi je suis arrivé en France, que tu le saches, à une date fabuleuse. Je suis arrivé en France la première fois le 4 juin 1967. Et je raconte toujours ça, mais à tous ceux qui m'écoutent, c'était la guerre des six jours qui démarrait. Et on est parti de notre ville comme des clandestins, c'est-à-dire que la maison, elle a dû rester comme elle était. J'avais, je crois, 9 ans, 8 ans. Et donc, mon père nous réveille à 3-4 heures du matin. Et il nous donne chacun, pas un balochon, mais un coussin, tu sais, qu'il a donné à mes enfants. On est deux, moi et ma sœur. Et on vient, il y a un camion qui vient nous chercher en Tunisie pour se déplacer, les fameux chéroutes qu'on a en Israël, ça s'appelait les louages, c'était des taxis collectifs, mais cette fois-ci il était réservé que pour nous, et on est parti de la ville pour aller jusqu'à Tunis. La veille, la synagogue de Tunis, la grande synagogue de Tunis avait été incendiée. Et donc, c'était très, très, très chaud, très, très dangereux pour tout le monde.
Pourtant, Bourguiba avait prévenu Tunisiens
il avait mis les chars au chevet d'un juif,
ça je me rappelle très bien.
L'attaque avait eu lieu, et quand on est arrivé à Tunis, d'ailleurs, on a trouvé des chars devant la synagogue pour la protéger, etc., etc. Et tout le long de la route pour rejoindre la capitale, il y avait des camions militaires avec des soldats qui allaient s'associer, le champ de bataille contre les sionistes là-dessus. Donc voilà comment on est arrivé. Et pour la dernière anecdote pour arriver sur notre arrivée en France, quelques jours après, il y avait à la grande, on est descendu dans la famille, dans ma famille, et mon père a été à la grande synagogue. Il y avait un grand rassemblement, un meeting, un grand rassemblement, on est resté à la maison, pour Israël. Et quand il est revenu, le pauvre, lui, vous savez qu'en Tunisie, on prononçait pas à cette époque-là le mot d'Israël.
Canada, je crois, c'est
67.
Ça. 67.
Voilà, 67, juin 67, etc. Et donc, il arrive là, et il va participer à ce rassemblement, à ce meeting. Il se passait quelque chose à la Grande Synagogue, une mobilisation. Avi m'avait raconté qu'il y avait aussi Avi Assouli, bien sûr, que beaucoup de gens s'enrôlaient pour aller être volontaires en Israël. Mmh. Et il revient à la maison chez ma tante, là où on était hébergé, émerveillé. « Ah, qu'est-ce qui t'arrive ?» On parle d'Israël, il y a les drapeaux d'Israël dans la synagogue, on prononce le mot d'Israël parce qu'on n'avait pas la possibilité d'exprimer. Le mot d'Israël était toujours dit sous une forme déguisée. Je vais au Canada, je vais à Tchéco, je fais ceci. On dirait tellement ils étaient terrorisés, les Juifs, là-dessus. C'est ce qui a fait un petit peu, je pense, une des raisons pour laquelle j'ai été baigné dans le militantisme communautaire. Et comme tu l'as dit, avec Boulette, on se retrouvait au 67 rue Breteuil pour les activités. Mes parents, d'entrée de jeu, m'ont toujours mis dans des structures communautaires.
Il faut qu'on les remercie, nos parents, parce que moi aussi, pareil. Et notre vie, elle s'est basée là-dessus.
Tout le temps. Après, donc, la période de la jeunesse au Dej, il y a eu un petit flottement, une petite pause. Et puis, dans les années, avec la guerre de Kippour, d'accord, juste après
73,
la guerre de
Kippour,
73, là, j'intègre, on me fait participer à des colonies de vacances et j'intègre le Bétard. Et là, je suis déjà au lycée, etc. Et on devient des militants, on va dire ça comme ça, au Bétard, avec tout ce qui caractérise le Bétard. J'ai milité, j'en ai pris la direction jusqu'en 1983, moment où j'ai passé la main avec notre cher ami Fabrice, on va l'appeler comme ça, voilà, qui a pris le relais. Et donc, quand on est venu me proposer le consistoire...
Il faut être un peu fou pour accepter d'être directeur du consistoire, non ? Il y a un petit grain de folie pour accepter d'être directeur du consistoire.
Ah oui, donc je suis à la fac. Bon, je perds mon père en 76, donc j'étais en deuxième année ou en troisième année. Oui, j'ai terminé le DUT de gestion à Saint-Jérôme. Mon père décède, ma mère n'a jamais travaillé, etc. Il faut trouver des façons de faire. Le grand rabbin Sutrik venait de prendre ses fonctions. Et il me dit, toi, il faut que tu viennes travailler, c'est pas possible, tu as un soutien de famille, il faut trouver quelque chose. C'est comme ça qu'il me prend pour me mettre avec lui, un peu bénévole, un peu rémunéré, tout ça, pour m'occuper de la grande synagogue. Pourquoi la grande synagogue? Et ça, c'est l'histoire du consistoire. À cette époque-là, il y avait une séparation entre la grande synagogue, qui était une entité juridique indépendante, sous laquelle était enregistré tout le patrimoine du consistoire israélien de Marseille, chose qu'on a rectifiée, tu le sais très bien, en 2020, quand on a changé les statuts. Et donc, le grand rabbin Sutrik ne pouvait pas supporter. Quand on dit, monsieur le grand rabbin, vous pouvez pas faire ceci, vous pouvez pas faire cela. À l'époque, je te rappelle, il y avait l'orgue le vendredi soir. Moi-même, j'étais...
Et le micro du rabbin Salzer.
Voilà. Rabbin... Ça aussi, j'ai une autre anecdote sur le rabbin Salzer. Et donc, on allait en monter les enfants de chœur le vendredi soir ou le samedi pour chanter. Il y avait, oui, comme tu as fait le geste, là, nos amis ne voyaient pas. On appuyait sur le bouton pour donner le top départ de l'orgue. Le micro était ouvert.
Enfin, c'est la vérité, Mme Taillard, qui était à l'orgue.
Voilà. Alors, le Shabbat, c'était pas Mme Taillard, parce qu'elle était d'un niveau supérieur. Elle n'intervient que dans les grandes cérémonies.
Ah, d'accord.
D'accord. On avait un autre monsieur qui venait là-dessus. Et pour l'histoire, tu sais quoi? Et ça me permet de rappeler un peu des histoires de la communauté. Parce que tu connais, c'est pour ça que je t'en parle. Paul Masliar, qu'on connaît tous, des EI, avait son cousin, son père était avec son frère associé dans une usine de produits de condiments et d'olives. Et il y avait quelqu'un qui était beaucoup plus âgé que moi, car à l'époque, je te raconte, donc on est dans les années 70, comme ça, à la Grande Synagogue, on venait faire partie des chœurs de la Grande Synagogue, on était quatre, pour chanter le Lecha Dodi. Il y avait un monsieur qui s'appelait David Masliar.
Oui.
D'accord? Le cousin de Paul.
Détail,
exact.
Bien sûr.
Je te le donne en mille.
Mais tu sais qu'il venait souvent le Shabbat à la maison, ce monsieur.
Ah oui?
Parce que mon père, il avait un truc, dès qu'il trouvait un jeune qui était un peu isolé, quelles que soient les raisons, il l'amenait à la maison et ma mère, évidemment, le recevait.
Tu es bien assis.
Oui.
Peut-être 40 ans après, ma fille habite en Israël. On en parlera de ma fille puisqu'elle est très 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 accro au niveau de Mada puisqu'elle est active là-dedans. Donc David, un jour je vais chez ma fille qui habite dans le Gush Etzion, d'accord, dans une synagogue qui est attenante à sa maison, et je vois un monsieur qui avait un certain âge, déjà âgé. Bon, ce visage me dit quelque chose. Une fois, deux fois, trois fois, je demande à mon gendre, je dis mais comment il s'appelle celui-là ? David Masliar.
Oh.
Je vais vers lui. Enfin, il a fait un parcours fabuleux, lui. J'essaie de lui parler deux, trois trucs. On se reconnecte d'une façon excellente. Et je l'ai côtoyé chaque fois que j'allais, je vais en Israël jusqu'à ce qu'il soit décédé il y a maintenant 2 ou 3 ans là-dessus. Regarde l'histoire comment elle est articulée.
Tu sais, je crois que tous les gens qui ont grandi dans la communauté par les mouvements, par les lieux communautaires, je veux dire, on a tous quelque part un peu la même histoire. Et quand on se revoit, écoute, c'est pas compliqué. Dimanche dernier, j'ai revu une amie que j'avais pas vue depuis plus de 40 ans. Dimanche, ouais. On s'est retrouvé. Je l'ai pas reconnu tout de suite, je suis honnête. Elle m'a reconnu un peu plus rapidement, mais dans la seconde qui suivait, je veux dire, il y avait tous les souvenirs qui remontaient. Quoi. C'était, voilà, on s'était quitté hier. J'ai revu, j'étais en Israël le mois dernier. Je sais pas si tu te rappelles de Albert Bellassane, un ami et confrère dentiste. Oui. Je l'ai pas revu depuis son alia. Il a fait son alia en 1982, ouais, un truc comme ça. Ouais. Je l'ai revu. On s'était quitté la veille, alors qu'entre temps, on est tous devenus grands-parents, les machins, les trucs, tout ça. C'est la force.
On doit être un peu passéiste dans cette émission. Les gens qui nous écoutent, ils ont dit c'est. Non, en fait, c'est
ça fait
vrai
du bien. Hein, ça fait du bien.
Voilà, oui, c'est un petit peu. C'est ce qui explique. Bon, j'ai raconté ça, c'est ce qui explique que j'ai eu le bonheur de donc continuer. Et ça, je dis le bonheur. C'est-à-dire, j'ai pu terminer un parcours au niveau universitaire. Et vient ce que j'ai expliqué l'autre fois avec Patrick. L'avènement du grand rabbin Citruc à Marseille est conjugué avec celle de la venue de M. Marcel Guenoun comme président de consistoire. Et ils ont voulu. À ce moment-là, sélectionner, choisir un encadrement ou des salariés issus d'une formation universitaire. C'est comme ça. D'ailleurs, pour la petite histoire, beaucoup de gens ne le savent pas, on a quelqu'un qui est bien connu dans la communauté qui s'appelle André Sarfati, d'accord ? Et le mari de Brigitte qui était le même dentiste. André Sarfati a été le premier directeur du consistoire d'une façon réelle. Quand moi j'arrivais, lui, bon, il n'a pas fait longtemps, mais il est resté deux ou trois ans là-dessus. Et moi, je suis arrivé, donc j'étais à la Grande Synagogue à temps partiel, on va dire ça comme ça, et on en a fait des choses avec le grand rabbin Citruc, je pourrais vous en raconter, ça c'était côté consistoire, quoi. Fabrication des premiers produits cachés à l'épaissard. On allait avec Rabbin Hassoun, Rabbin Bismuth et le grand rabbin à l'usine de Saint-Louis pour le sucre, pour surveiller les fabrications de sucre caché à l'épaissard qui n'existait pas à Marseille à cette époque-là. Et après, on les ramenait tout ça dans le petit local ici de la Hauser d'Alim où il y avait les classes de Talmud Torah et on commençait à les étiqueter, à les mettre caché à l'épaissard. Et nous qui venions de Tunisie, dans ma petite ville, on avait déjà des produits cachés à l'estampillé comme le Coca, comme le Fanta. On dit comment nous, un petit patin, on arrive à voir ça et ici, ils ne connaissaient pas ça. Et c'est comme ça que la cacheroute Beddin Marseille a commencé à émerger. Après, il y a eu quelque chose de fabuleux. Le grand rabbin, quand il a pris ses fonctions, je passe un peu du coq à l'âne, mais...
Mais raconte-nous ces histoires, c'est voilà. Trop beau.
Le grand rabbin, quand il arrive donc dans ses fonctions et qu'il a pris plein pied, il a d'abord demandé, c'était l'usage à l'époque, d'avoir la délégation du Beddin de Paris, parce que Paris était souverain sur toutes les fabrications cachères. Et il interdisait n'importe quelle communauté que d'avoir son propre Beddin. C'est pour ça qu'ont émergé des Batedines comme le Rav Frankfurter, comme le Rav Rotenberg. C'est vrai, plus orthodoxe par rapport au consistoire de l'époque. Rabbin Citruc est rentré dans cette démarche-là en acceptant d'abord la délégation de pouvoir. Et puis après, tout de suite après, quand il a voyagé le Rav Shimon Bitton, qui est arrivé dans les années 80, il a créé la cacheroute Beddin Marseille. C'est comme ça qu'on a exposé. On avait fabriqué des vins, on avait fabriqué quelque chose. C'était parti d'une façon fabuleuse. Et là, on est arrivé avec la fameuse histoire des bouchers, moi qui m'a marqué beaucoup, parce que là, je venais d'arriver là, au consistoire. Et c'est alors, les bouchers avaient comme usage, pour ceux qui nous entendent, je parle à M. Attia d'ailleurs, si peut-être qu'il suit la radio pendant qu'on
sûrement,
parle.
Sûrement.
D'accord. Les bouchers avaient l'habitude de monter à l'abattoir. En général, dans la région, c'était soit du côté d'Avignon, soit du côté d'Aubagne. Et ils choisissaient la bête qu'ils voulaient abattre. Le shohet du consistoire faisait l'abattage et eux payaient, je crois qu'à l'époque, c'était parce que ça fait beaucoup couler dedans, ils payaient la redevance de 200 francs par bête. Citruc a dit, c'est pas possible, il faut étoffer ça, on peut pas marcher. Alors c'est toujours la même chose. Aujourd'hui, c'est pareil, le tiraillement, le rabbin a des ambitions, le président du consistoire, j'ai pas d'argent, il faut trouver les. Enfin, ça, pas de souci. C'est là où on a normalisé, on a fait une redevance au kilo. Donc le tonnage qui a été fait, on a développé des fabrications d'une façon extraordinaire, des consommations de vin. Il y a toute une action qui était faite pour sensibiliser, pour manger cachère. On a étoffé une équipe de shahita avec, je pense qu'on avait 8 ou 10 shohatim, plus des extras et autant de shomrim. On sillonnait la France. On sillonnait la France pratiquement à 3-4 séquences par semaine avec des équipes démultipliées un peu partout. On avait fait des trucs pas mal là-dessus.
C'est, mais je crois que lui, il faudrait écrire un livre parce que je sens qu'il y a des milliers d'anecdotes à raconter. Parce que tu as vécu plusieurs grands rabbins de Marseille.
J'ai vécu
ces trucs. Il y a eu M. Wakenin, il y a eu M. Bismuth qui n'est pas resté longtemps, mais il est passé par là quand même. M. Wanek qui est en présente. Tu as eu différents présidents.
Différents présidents. Ça,
alors, dans tout ça, est-ce que tu as un truc à nous sortir, une belle anecdote de que tu puisses.
J'avais déjà raconté.
Ça va
me revenir. L'anecdote, puisqu'on est à la radio, alors c'est pas une anecdote, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup marqué. Je pense que ça a même marqué la communauté. Alors, je vais la raconter puisqu'on est sur les ondes de Radio JM. C'est vrai que j'étais aussi militant à Radio JM. À la création de la radio juive en 1981, on faisait avec Clément Yana, on était une bande de bénévoles.
C'est si d'ailleurs, ça flègue de.
Non, on était à la rue de Rome au début.
Après,
c'était beaucoup. 81, c'était avec mon ami Jean Africano qui faisait l'émission italienne et avec qui je suis toujours en contact.
Un grand joueur
d'ailleurs,
de basket.
Je vous encourage à aller voir. Il a une cave de vin. Il a développé une cave de vin fabuleuse qui était toujours autant appréciée par le Rav Mimoun Zichrono Livracha, qui chaque fois qu'on pouvait aller, il fallait qu'on lui rapportait ça. Enfin bon, bref, ça c'est encore une histoire, j'aurais pas le temps de parler.
Et d'origine tunisienne, hein, je sais pas de bêtises.
Genre oui, hein, voilà. C'est encore un parcours. Ça. D'ailleurs, c'est une belle histoire si on voulait par rapport à tout ce qui est conversion. Ça, c'est encore une très belle histoire.
C'est un exemple pour nous. Ça.
Donc je reviens sur cette, on va dire une anecdote parmi tant d'autres. On est dans les années 81. Le soir, il y avait un monsieur qui était donc le directeur du consistoire en place et qui avait en plus de son activité militante, c'est une personnalité. Roland Drahi était une personnalité de la vie juive de l'époque, pas spécialement en tant que président quoi, mais en tant qu'acteur sur le terrain, militant, véritablement. Autant de fois je me suis étripé avec lui, autant de fois j'ai aimé ce monsieur-là.
On l'appelait Bélier, de son nom.
Bélier, c'est vrai. C'était un Bélier, d'accord. Alors, on va rester sur cette anecdote, puisqu'on a parlé de Bélier. Bélier, c'était l'activité communautaire. Il était président du Maccabi, il était directeur du consistoire, il était un des fondateurs, des animateurs essentiels de la structure des EI à Marseille. Et puis un jour, il y a un meeting à la Fac Saint-Charles. À l'époque, on était très, très présents sur le terrain des universités. Et on avait un meeting, on va dire, pro-palestinien, mais à l'époque, on était avec les Fedaïnes, avec toutes ces équipes terroristes, etc. Et il y avait une promotion de l'université de Bir Zeit, qui était une université en territoire arabe, qui promouvait la haine d'Israël, claire et nette.
Classique.
Et il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas? On ne pouvait pas accepter, nous. Et Bélier avait déjà, je pense, une bonne cinquantaine d'années, même peut-être plus que ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ni une ni deux. Il appelle le Bétard, il appelle Nicole Zemmour, et on y va un samedi après-midi. Excusez-moi, messieurs les rabbins. Après la tuila, on a été à la synagogue, c'est vrai. Après, on a été rejoindre cette manifestation. Non, c'est ce meeting. Et il s'est déroulé à la Fac Saint-Charles un samedi après-midi. Et je me rappellerai de ça parce que ça vaut la peine de le raconter. Donc on rentre comme des Pékins qui viennent participer à un meeting. Bien sûr, la salle ne nous était pas loin de là acquise. Et Roland prend la parole et il va dans un argumentaire. Deux fois, il a pris ou trois fois la parole. Donc il s'est bien fait identifier par les gens. Toujours des paroles qui vont dans le sens des intervenants. Et puis à un moment donné, bon, ça commençait à chauffer vraiment, on n'en pouvait plus de supporter ça. Roland nous donne le feu vert pour faire autre chose. Et il commence lui à reprendre la parole, à rectifier la révision de l'histoire qui était en train de se faire là-dessus. Et puis c'est parti, comme on dit en franc marseillais, en cacahuète. Oh, et les gens du Beta, on a terminé dans la salle d'une façon. Donc le directeur de l'époque du consistoire était déjà quelqu'un, puisque Roland était directeur du consistoire à partir de 1980. Quand il a rejoint M. Marcel Guenoun à la direction.
Écoute, Lulu, l'émission va trop vite là. Je veux dire, Amy, je crois qu'il reste très peu de temps, Amy. Elle me dit qu'il resterait peu de temps, Amy. Une petite minute. Lulu, il va falloir qu'on refasse une émission parce qu'il y a trop de choses à raconter. Et puis là, on découvre le Lulu qu'on connaît tous. Parce que, crois-moi, Lulu, moi, je tiens à te remercier, à te féliciter, à t'honorer pour tout ce temps que tu as donné au consistoire, même si c'était ta fonction. Tu n'as pas vu les horaires, tu étais là tout le temps, toujours présent.
J'ai eu le bonheur.
Tu as fait ça avec ton cœur avant tout.
Véritablement, on n'aura peut-être pas l'occasion maintenant parce que c'est trop tard, l'émission s'achève, mais j'ai milité au consistoire et j'ai eu le bonheur d'être salarié pour me faire un kiff. C'est un peu comme les artistes, les chanteurs. J'ai kiffé ma vie professionnelle en militant et en me consacrant à une cause dans laquelle je suis très convaincu.
Eh bien, on va tous essayer de continuer à kiffer ta vie.
Oui, je vais continuer. Je vais continuer une paire d'années encore avec notre nouvelle.
Parce que de toute manière, on ne pourra que te regretter. Et on dit quand même un grand mazel tov à Céline qui prend la relève de la place de direction. Et puis voilà. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, c'est une émission que tu vas aimer. Je vais la consacrer à la fête de Hitro. Ah, donc, il y aura Benny Amar, il y aura peut-être même sa belle-mère qui va nous parler des repas que l'on fait.
On vient témoigner aussi des recettes.
Avec plaisir, voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un Shabbat un petit peu à l'avance. Shabbat shalom à vous tous.
Shabbat Béchalar, très important, un grand Béchalar, Shabbat.
Exactement, c'est l'ouverture de la mer Rouge. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Je vous souhaite que des belles choses. Et rendez-vous mercredi prochain, 17h30, sur les ondes Radio GM pour l'émission du Consistoire israélite de Marseille. Bonsoir.
Moshe, Omer, Ani rotza lerkod.
Lev Echad, émission du Consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun.